Bonjour chers amis, que Dieu vous bénisse. Soyez attentifs à ce que l'Éternel dit à travers sa parole et relisez les textes dans la journée, je vous en prie. Relisez-les pendant la semaine, notez, prenez un papier et un bic et faites de la parole du Seigneur votre nourriture. Je regardais au matin la tranche de pain que je mangeais. C'est une tranche de pain faite avec la farine de notre champ et c'est du pain que fait Marie-Hélène. Et puis je me disais, Seigneur, toi tu es le pain vivant descendu du ciel, Jean chapitre 6. Et en regardant cette tranche de pain, je disais, c'est toi, Seigneur, dont j'ai besoin. Et tu es vraiment le pain vivant descendu du ciel pour les hommes. C'est toi qui fortifie le cœur. C'est toi qui donne la vraie vie. Voilà, intérieurement, tout ça, ça se passe intérieurement, évidemment. Mais gloire à Dieu, Jésus est le pain vivant descendu du ciel. Soyez bénis si vous le vivez ainsi, si vous êtes convaincus de cela. Je vais me référer au premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. C'est un verset qu'on a déjà entendu souvent, vous savez, mais souvent les versets nous passent au-dessus de la tête, ou on les a entendus, on y avait vraiment fait attention, puis on finit quand même par les oublier. C'est pour ça qu'il faut parfois s'apprendre et faire un effort pour étudier par cœur des versets ou les noter sur un papier. À force de le noter, de le copier, quelquefois c'est inscrit dans l'âme, c'est inscrit pour l'âme, c'est inscrit dans la mémoire pour l'âme. Donc, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Donc, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, en parlant de Saül. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Vraiment, chers amis, c'est un verset qu'il faut ne jamais mettre de côté. Ça fait partie de l'éducation fondamentale de la vie chrétienne, de la vie spirituelle, de la vie en société, de la vie en famille, de la vie professionnelle. C'est un axe directeur pour la conscience chrétienne. Je le relis. « Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. » L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Je vais aux courses, j'ai des sachets en plastique dur, solide, puisqu'on ne peut plus avoir de petits sachets en plastique, en tout cas en Belgique, c'est interdit pour la pollution, etc. On a des sachets que les magasins nous ont donnés, ils sont costauds, qui durent longtemps. Parfois chez nous, ils sont détruits parce qu'on transporte du bois avec, du bois de chauffage, mais voilà, normalement c'est conçu pour... Et sur ces emballages, il y a toujours des garçons, des enfants, dans des postures invraisemblables et avec des vêtements, pour faire la promotion des vêtements fabriqués en Chine, au Vietnam, etc., vendus ici, pour satisfaire nos besoins. Et il y a aussi des vêtements portés par des jeunes filles, des jeunes garçons, des adolescents, ou... des gens de 17-18 ans déjà, et puis plus tard des jeunes hommes, etc. Il y a tout, un peu tout sur ces sacs-là. Et chaque fois, ils sont dans des positions invraisemblables, qui ne sont pas classiques, humaines, pour attirer l'attention. C'est l'apparence. Ce sont des gens qui sont payés pour donner de l'apparence, et qui sont engagés, peut-être pour 6 mois, 1 an, dans une maison de casting, pour des firmes qui font produire l'événement autre part. Mais ils n'ont pas une vie si brillante que cela. On va les prendre en photo peut-être 200 fois sur la journée, dans toutes les postures possibles, et on va faire d'eux un jouet. Mais nous sommes un peu des nigauds, nous sommes attirés par cela. Et tous les grands magasins sur les zones artisanales, les zones commerciales, ont des grandes images, des grandes photos de ce genre aussi. L'apparence nous touche beaucoup. L'apparence nous touche beaucoup. La même chose quand on regarde les religions, on regarde à l'apparence des grands hommes religieux qui paraissent grands aux yeux de nous, mais qui sont peut-être très petits aux yeux de Dieu. Pour les hommes politiques, ainsi de même. Grands aux yeux des hommes, ou par les masses médias, par l'étude psychosociologique des masses médias, des conseillers techniques en information et en communication, mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'apparence? Tout cela, Dieu n'en a que faire, il le supporte pour l'instant. Il le supporte. Donc, dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 14, il le supporte, mais ça ne durera pas. Dans 1 Samuel 13, verset 14, en parlant à Saül, « Maintenant ton règne ne durera point. » Terminé. C'est un petit peu pour tout ce qui existe sur terre pour le moment, hein, tout ce que vous voyez qui brille, qui se fait paraître, se fait apparaître. Et maintenant ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Donc nous voyons ici que Samuel, à contre-cœur, parce qu'il aimait beaucoup Saül, il s'était habitué à cet homme, il doit obéir à Dieu. Dieu a choisi un petit homme dans une famille d'un paysan, le dernier, le moins costaud, le moins fort physiquement, David, qui était beau de visage, mais beau de cœur. Et c'est cet homme, David, qui va être choisi comme roi. Nous, pour nous, aujourd'hui, à la résurrection, ce n'est pas David notre roi, c'est Jésus. Jésus, le plus beau des hommes, le plus beau des princes, le prince de la paix, de la vérité, de l'amour, de la lumière du monde. Dieu s'est choisi déjà un roi pour nous. Et tout ce qui apparaît aujourd'hui comme brillant ne brillera plus, mais lui, il brillera. Lui, il va briller. Et tous ceux qui auront été humbles, qui auront accepté de rechercher la vraie lumière qui est en lui, seront à côté de lui, dans sa gloire. Donc, un homme selon son cœur. David est une préfiguration de ce que Christ est dans la réalité. Un homme selon le cœur de Dieu. Un cœur comme celui de Dieu, le cœur de Dieu, dans un homme. Donc, l'esprit est authentifié, l'esprit authentifie le choix de Dieu. Dans le Jourdain, quand Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit Saint authentifie Jésus. C'est à ce moment-là, quand Jésus arrive, une minute ou deux avant, que Jean-Baptiste sait que c'est lui le Messie. Pourtant, c'était son cousin, il le connaissait, mais il ne savait pas que c'était le Messie. Et il travaillait depuis des années par la prédication et le témoignage à la venue du Messie, comme Dieu lui avait demandé. Mais il ne savait pas où il était. Et tout d'un coup, le voilà. Il reconnaît que c'est Jésus de Nazareth, le fils du charpentier, et son cousin. Mais ce n'est pas parce que c'est son cousin qu'il est le Messie. Et simplement, c'est l'Esprit Saint qui l'authentifie, qui descend sur Jésus, qui désigne Jésus comme le Fils de Dieu. Celui qui purifie et qui donne par le feu, par sa parole, et qui donne le Saint-Esprit, qui renouvelle l'homme, qui chasse la vieille nature, qui la crucifie et qui la renouvelle. Alors, nous allons aller voir dans le psaume 97, verset 9. Psaume 97, verset 9. Toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Chers amis, Il faut analyser et faire le tour de notre conscience hein, chaque jour et parfois dans le calme et le silence. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. Vous voyez à quel point c'est fondamental. Il y a une réciprocité dans la révélation intérieure de Dieu. Une réciprocité. Révélation, lumière divine et manifestation de la justice de Dieu dans mon cœur pour me conduire dans un comportement, une vie et des pensées saintes, propres, selon son plan, selon sa volonté, et qui me conduit dans la reconnaissance. Et la reconnaissance, la louange, c'est aussi une révélation. La révélation se fait par un don de Dieu en nous. La louange se fait par un don de Dieu, parce que la louange existe déjà au ciel. Donc nous recevons quelques prémices de cette louange et nous la vivons dans l'action de grâce. Et nous participons ainsi à la communion des saints avec ceux qui sont déjà auprès de Dieu dans son paradis. Il faut prendre aussi, si vous voulez bien, le psaume 33, versets 13 à 22. Le psaume 33, versets 13 à 22. Dans le psaume 33, il y a des versets déjà avant, hein, formidables, tels que le verset 5 et 6. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. La voyez-vous, cette bonté de Dieu à travers la terre? Elle l'en est remplie. Moi, je regardais au matin, je voulais rester dans ma chambre pour me préparer pour le culte, et à un moment donné, je regardais par la fenêtre, je voyais sur la haie, j'ai posé un petit bac avec des déchets de nourriture. Je voyais tous des moineaux qui y venaient, des oiseaux de toutes les couleurs. Puis il y avait un gros merle qui venait, qui chassait tout le monde, et qui s'empiffrait, etc., qui voulait rentrer maître. Mais à un moment donné, il était gavé, il partait, les autres revenaient tous à la charge. Et puis il y en a un petit marrant, un petit copain, mais que j'adore, que nos enfants ici adorent, c'est le rouge-gorge. Mais il n'est pas tout seul. Le rouge-gorge, il y en a quatre. Maintenant, j'en ai réparé quatre, moi. Et donc, ils viennent après. Ils attendent que tous les autres se soient gavés, et puis ils y vont gentiment. Mais ils sont très prudents. Et parfois, quand on est tout près, leur regard croise notre regard. Et nous voyons une bonté, comme telle que Dieu l'a mis, dans l'univers, dans la terre. Nous voyons une bonté. Pas la bonté des goulus, des moineaux et des merles, la bonté du rouge-gorge. Ce rouge-gorge qui a su attendre que tous les autres se soient remplis, gavés, et la bonté de le voir là, et qui, l'air de rien, des fois, arrête de manger pour nous regarder et nous parler avec ses yeux. Et donc, il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Continuons dans ce psaume 33. Verset 13, c'est pas vrai. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Notre cœur met en lui sa joie et nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Donc, n'oubliez pas le verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Verset 15, alors là c'est considérable. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Il ne s'agit pas du cœur, l'organe. Oui, bien sûr, il l'a fait. Mais du siège de la conscience, de la vie intérieure, du jeu profond. Et il est attentif à toutes les actions de ce cœur. C'est fondamental de savoir que Dieu voit ce qui se fait, ce qui se dit, se pense dans notre cœur. Et nous allons aller voir dans d'autres textes, évidemment. Mais avant, je voudrais vous donner un partage. Vous avez vu tout à l'heure Vincent qui disait un texte de Matthieu, au chapitre 11, « Venez à moi, vous qui ployez sous le fardeau, etc. car je suis doux, humble de cœur. » Et c'est Matthieu 11, versets 25 à 30. C'est, je ne veux pas dire quelque chose d'impertinent, mais un jour, nous nous promenions, ma femme et moi et nos enfants, dans la nature. Et dans la nature, nous avons croisé un cavalier. Ce cavalier, sur son cheval, galopait, et puis il passait devant nous, il tournait, et c'était Vincent. Et Vincent est passé, à cette époque-là, sans nous regarder, il était absorbé dans ses pensées, absorbé dans sa course avec le cheval, pas au grand galop, hein, mais le petit galop, et il était en lui-même, il portait quelque chose de lourd. Et moi, je me rappelle avoir posé mon regard sur lui en me disant, « Seigneur, mon Dieu, je ne connais pas ce jeune homme, mes filles le connaissent, puisqu'il va à l'harmonie, et nos garçons le connaissent, mais puisque tu le connais, toi, agis dans son cœur pour alléger son cœur. » Alléger son âme. Quand je vois des personnes, mes chers amis, ça c'est l'âge, depuis l'âge de 8 ans que j'ai ça en moi, quand je vois les personnes, je vois leur cœur. Pas seulement le physique. Le physique, c'est une carrosserie. Hein. C'est comme la voiture, c'est une carrosserie. Je ne néglige pas la carrosserie, évidemment, mais ce qu'il y a, c'est pas un attrape-nigo pour moi. Ce que je vois, c'est le cœur, c'est l'âme, et je remarque beaucoup de choses parce que Dieu m'a donné ça, de le voir. J'avais aimé un vagabond, j'avais partagé tout ce que j'avais, et quand le vagabond m'a regardé dans les yeux, c'était quelque chose de bouleversant. J'ai vu cet homme complètement touché, bouleversé, et moi, je ne sais pas pourquoi, je voyais comme le regard de Jésus. Matthieu 25, versets 35 à 45, « J'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier. Mais quand avons-nous vu, Seigneur ? Mais chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Je voyais à travers cet homme, j'ai reçu une illumination de mon cœur, une révélation que la personne portait une infinie dignité et que cette dignité était non seulement personnel, privé, mais porté par Jésus. Il y a une particularité, une spécificité à chaque personne portée par Jésus, le Fils de Dieu, notre Créateur. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Colossiens chapitre 1. Donc quand on regarde quelqu'un et qu'on demande à Dieu de comprendre cette personne et que l'on prie, qu'on prend l'habitude de prier, on sait que Jésus, déjà, quand cette personne ne le connaît pas, n'est pas encore sauvé, ou ne le connaîtra peut-être jamais, ça dépend, c'est mystérieux tout cela, ça nous dépasse, eh bien, nous devons savoir que Jésus est là avec cette personne, qu'elle soit inconvertie ou convertie. Quand elle est convertie, Jésus est sa lumière, est sa consolation, est son directeur, et dirige sa conscience par le Saint-Esprit. Mais, de toute manière, tout appartient à Jésus, à Christ. Il faut, chers amis, avoir un regard comme celui de notre Seigneur Jésus sur les autres. Vous ne pouvez pas avoir un regard, si vous êtes chrétien, un regard simplement humain, épidermique, psychologique, scientifique, etc. Tout ça, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Dieu demande plus à notre conscience. Regardons Marc chapitre 7, versets 20 à 23. Marc chapitre 7. Marc chapitre 7. Donc à 11h30, nous arrêtons, n'est-ce pas, pour faire avoir un entretien communautaire, convivial, spirituel. Marc chapitre 7, verset 20. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Donc, tout ce que nous entretenons dans notre cœur, que nous vivons, et qui est le reste fruit d'une activité intérieure, d'une intériorité, d'une conscience, est quelque chose de très important pour Jésus. Parce que c'est cela qui va pourrir le monde, la famille, le conjoint, les enfants, ou c'est cela qui va les relever. C'est cela qui va leur apporter la paix, la joie et la lumière, l'envie de vivre. Et nous avons une mission d'être vrai, d'être pur, d'être comme Dieu le veut. C'est pour ça que Dieu, dans le premier livre de Samuel, a choisi David, un homme selon son cœur. Êtes-vous une femme, un homme, un enfant, selon le cœur de Dieu, de Jésus-Christ ? C'est le bilan qu'il faut faire tous les jours. C'est un bilan souverain qui, de toute façon, restera à la fin de votre vie le meilleur des cadeaux que vous pourrez présenter à Dieu pour le glorifier. Pas un cadeau pour mériter quelque chose comme Caïn, pour le glorifier, pour lui dire « Voilà Seigneur, tu m'avais donné une vie, une âme, une conscience, tu m'avais donné des talents, des mines, et voilà ce que j'en ai fait. Voilà, je te le rends, je l'ai peut-être multiplié très peu, j'ai peut-être beaucoup multiplié à certains moments, mais voilà Seigneur, j'ai été fidèle, j'ai essayé d'être fidèle dans les petites choses comme dans les grandes. Voilà Seigneur. » Et parler à Jésus. Jésus sait très bien, si vous faites tout ce que vous pouvez, comme une personne qui mourait me disait, mon amie, j'étais une dame à Namur, elle est en train de mourir, j'étais à côté d'elle, j'avais 22 ans, et j'étais en philosophie, et elle me dit, mon amie, dites que si j'ai fait tout ce que je pouvais pour Dieu, j'ai fait ce que je devais. Évidemment, ma sœur, évidemment. Vous ne pouviez pas faire plus que ce que vous ne pouviez. Dieu vous avait donné des talents. Au-delà, chacun ses limites. Si vous, en âme et conscience, vous avez été honnête et droite avec le Seigneur, Jésus l'a vu. Et Jésus vous tend les bras. Elle était en paix, son regard était paisible. C'est pas la première personne que j'ai assistée à sa mort, il y en a eu d'autres, avant et après, mais ça m'a toujours plu, cette parole, parce qu'elle était si simple, si pure, cette femme dans son cœur. Mon Dieu, quel cadeau pour son entourage toute sa vie. Et elle rend gloire à Dieu. On rend service dans la société par ce qu'on est, plus que par ce qu'on fait. Par ce qu'on est, plus que par ce qu'on dit, chers amis. Alors, prenons Matthieu 22, verset 16. Matthieu 22, verset 16. Ah, est-ce que j'ai lu tout ? Non. Je m'excuse. Marc, chapitre 7. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. On va voir qu'il peut sortir autre chose du cœur, hein. Ce serait quand même catastrophique que j'en reste là. Mais quand même, Jésus dénonce quand même que si on ne le laisse pas à l'œuvre, à l'initiative de notre vie, de notre conscience surtout, eh bien, on va donner des fruits pourris. Ça, c'est pas étonnant. J'en ai pleuré souvent. Que de tristes années, tristes journées, tristes bêtises, égarements. Alors, Matthieu 22, verset 16. Les pharisiens, je commence au verset 15, allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ça, c'est vraiment des ennemis rusés, intelligents. Et il y en a encore aujourd'hui à l'entour de nous, chrétiens, quand on veut travailler pour le Seigneur. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, donc tous ceux qui sont partisans du roi Hérode. Mais il faut bien savoir que Jésus dérangeait tout le monde. Comme Jean-Baptiste avait dérangé, on avait raccourci Jean-Baptiste, on voulait raccourcir Jésus. On a toujours tué les prophètes pendant des siècles. Et donc les Hérodiens, ce n'est pas des cadeaux. Hérode lui-même a fait assassiner toute sa famille, etc. Alors, et c'est lui qui a fait venir les Romains, les envahisseurs, qui a mis Israël sous la tutelle de Rome, la domination de Rome. Alors, qui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. » Vous vous rendez compte? Voilà des ennemis qui reconnaissent les qualités spirituelles de Christ, les vraies qualités spirituelles, et qui... Si on met de l'huile dans l'engrenage, ça va mieux tourner. Et puis après, on va l'avoir au tournant. On va peut-être le flatter. Il va peut-être tomber. Boum, il va tomber. Parce qu'on lui tend un filet sous les pieds. Et c'est incroyable. Vous pouvez avoir dans votre vie quelqu'un qui vous reconnaisse vos vraies qualités. Ce n'est pas pour ça qu'il vous aime et qu'il aime Dieu. Faites attention, les amis. Je me suis fait avoir souvent. Faites attention. Ce qui sort de la bouche n'est pas forcément le reflet d'un cœur pur. Même si ça paraît vrai, il faut faire attention, très attention. Ça s'appelle la duplicité. Et ici, c'est un cas de duplicité incroyable. Et croyez-vous que ça n'existe pas même dans ce qu'on appelle la chrétienté? Évidemment, il y a du blé livré, des brebis et des boucs. Alors... Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. C'est un sacré cadeau, d'avoir un tel Jésus devant eux. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils veulent changer, les amis. Eh bien, il y a des gens qui entendent la Bible, il y a des gens qui entendent des messages, et qui ne changent pas. J'ai eu ça, ça fait des années que j'expérimente cela, qui ne change pas, mes amis. Je supplie Dieu d'intervenir. Qu'il les brise, qu'il les change, par amour. Et ça arrive souvent. Il faut prier, il faut intercéder pour de telles têtes dures, des cœurs étroits. Il faut prier, les amis. Il faut supplier Dieu d'intervenir. J'en ai vu plusieurs complètement ou peu à peu changer. Je ne doute pas des trésors de miséricorde de Dieu et de sa puissance éternelle, de sa longanimité, de sa bienveillance. Lisez Romains chapitre 2. Et je ne crois pas qu'il faut juger et condamner quelqu'un, c'est-à-dire ne plus faire confiance à l'œuvre de Dieu dans cette vie, dans cette personne, dans cette conscience. Et donc ici, Jésus est resté très brave, très gentil, très bienveillant vers les Hérodiens, les Sadducéens, les Pharisiens. Et je crois qu'il y en a qui sont convertis. Il n'y a pas de doute dans les actes des apôtres. Alors, si Dieu est ainsi vrai, pourquoi, si vrai, pourquoi nous, à son contact, qui le confessons, qui avons cru en lui, ne changeons-nous pas? Pourquoi y a-t-il quelque chose qui se bloque et qu'on en reste souvent au même stade, tout le temps? Il faut faire attention, les amis. Nous pouvons avoir de la duplicité inconsciente. Parce que nous avons décidé à un certain stade d'évoluer, nous évoluons, et puis c'est le grand confort spirituel, j'ai la bonne conscience, j'en reste à ce que je suis. Le reste, ça ne sera que du savoir, du raisonnement, ça va passer. Et où est la grâce agissante, alors? Où est la grâce agissante? La véritable souveraineté de Jésus dans ma vie. pauvres que nous sommes, pauvres que nous sommes, Jésus a bien de la patience avec nous. Et pour moi, avec moi, pour commencer. Prenez Jean, et chapitre 19. Jésus est extraordinaire. Jésus est extraordinaire, mes amis. Dans Jean, chapitre 18, pardon, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus, lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Pensez à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alors, si Jésus est roi des Juifs, c'est selon le cœur de Dieu. Hein, c'est pas selon les manies humaines et les stratagèmes diaboliques des hommes. Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Et qu'est-ce que vous voyez là? C'est que Jésus dit, « Tu te fies à ce que les autres disent, à l'apparence ?» Regardez bien, la stratégie, la pédagogie de Jésus, est-ce que tu te bases sur les apparences, sur les a priori, sur tout ce qu'on a dit sur moi, ou tu le dis de ta conscience? Tu le dis de ta propre responsabilité. Chers amis, devant nous, Jésus nous demande, fais-tu cela de ta propre responsabilité, de ta propre conscience vis-à-vis de moi? Pilate répondit, moi, je suis juif, fils d'Abine, bien sûr. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Il s'est deviné. Il ne veut pas parler de sa conscience. Il a mis sous le paillasson. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux juifs, aux responsables juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas, pour l'instant. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage sur la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Donc, quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Chers amis, est de la vérité. Donc, il y a des personnes qui ont en eux un choix, ont procédé à un choix, après de grands péchés peut-être, ou même de tout petit. Ils aiment, ils adhèrent à la vérité. Et de ce fait-là, ils entendent la voix de manière plus claire de Christ, de l'Évangile. Quel que soit le chemin que nous avons fait, notre cœur peut être épris de vérité un jour et entendre la voix qui n'est pas celle des hommes, la voix qui n'est pas celle du monde. Prenons Jean chapitre 8, verset 15. Ce que je veux dire moi ici, c'est que le plus grand art dans une église, pour des responsables d'église, pour un pasteur, pour les diacres, c'est d'amener les gens, les personnes qui ont été baptisées à un exercice de la vérité, à un usage honnête de la conscience. Et une écoute honnête de la parole. C'est ça le cadeau. Qu'on soit 15, 25 ou 300 ou 2000, c'est toujours le même axe. Alors, dans une école chrétienne, c'est la même chose. Il faut amener les personnes à aimer la vérité et à écouter la voix vraie, pas les voix fausses. Sur la transfiguration, Matthieu 17, on voit bien que dans la nuée, sur la montagne de l'Hermon, quand Élie et Moïse sont là, les deux grands prophètes de l'Ancien Testament, que Jésus est là, et de la nuée, donc du Saint-Esprit, Shekinah, il sort une voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance, écoutez-le, écoutez-le ». Et c'est la même chose au baptême, quand la colombe descend sur Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Est-ce qu'il faut l'entendre dans une cathédrale, à la radio, à la télévision, sur Internet? Il faut l'entendre dans la Bible. Il faut l'entendre dans le secret du cœur, de la chambre. Dans le secret, quand on est tout seul dans l'auto et qu'on ne met pas de bazar à la radio. On ne met pas de boum-boum. Bien sûr, des fois, le boum-boum, ça fait du bien, ça défoule. Mais ce qu'il y a, il y a aussi le secret du silence. Le silence où l'on s'approche mutuellement l'un de l'autre. Jésus et moi. Et la Bible et moi. Suis-je différent quand j'ai été une heure ou deux avec Jésus et avec sa Bible? Si je suis toujours le même, il y a quand même un problème. Il faut se poser où ça coince. Il faut peut-être aller trouver un pasteur avisé ou en parler à des chrétiens dont l'expérience est certaine, éprouvée, pas des expériences bidons. Jean chapitre... Donc, il y a certainement, chapitre 7 d'abord, de Jean, verset 37, quelque chose, puisque je vous ai dit tout à l'heure, c'est du cœur que sortent les, Matthieu 7, les mauvaises pensées, l'idolâtrie, les crimes, etc., les impuretés, mais il y a aussi une autre possibilité. Dieu n'est pas sinistre. Jésus n'est pas venu pour la sinistrose. Et je ne voudrais pas être sinistré aujourd'hui et faire de vous des sinistrés. Il y a une possibilité éclatante, glorieuse. Matthieu, Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Une conscience qu'a soif de Jésus ne sera jamais rejetée par Jésus. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc le sacrifice à la croix n'avait pas été fait, la résurrection n'était pas accomplie, donc l'Esprit Saint ne pouvait pas être donné. Mais clairement, clairement, vous avez un cœur plus grand qu'un temple, qu'une cathédrale, qu'une basilique. Vous avez un temple immense comme un continent, pour recevoir la personne la plus importante du monde, Dieu le Saint-Esprit. L'espace incommensurable que peut prendre le Saint-Esprit dans notre vie, en hauteur, en profondeur, en largeur, en longueur, tout votre être, et vous êtes toujours Cathy, ou Jackie, ou Françoise, ou Annette, vous êtes toujours vous-même. Mais vous êtes devenu, par la grâce de Dieu, un temple vivant du Dieu vivant. Avant, vous étiez un arbre sec et mort. Alors, au chapitre 7, verset 24, toujours de Jean, « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et c'est quoi la justice ? Selon la sainteté, selon la vérité, révélée par Jésus-Christ. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Donc, il faut avoir un regard sur ce qui se passe, sur les comportements à l'extérieur, mais selon la sainteté de Jésus. Et si on voit un frère et une sœur qui pêche, eh bien, il faut essayer gentiment, avec douceur, avec vérité, de le ramener à la vérité pour qu'il ne tombe pas dans la catastrophe spirituelle totale. Qu'il ne fasse pas des dégâts autour de lui. Alors, vous trouverez, ne jugez pas selon l'apparence, mais selon la justice, vous trouverez un verset semblable dans le psaume, chapitre 2, psaume 2, verset 10. Mais, pour les magistrats, les juges de la terre, etc., c'est bien nécessaire, n'est-ce pas? Regardons dans Jean, chapitre 5, verset 45. Jean chapitre 5, verset 45. Nous allons bientôt arrêter. Ce qui est très important, mes amis, c'est de se rendre compte que nous avons un cadeau formidable, c'est la conscience et l'âme. Et que dans toute notre civilisation moderne, on piétine ça avec la télévision, la radio et tout. On en fait une poubelle. Et il faut faire attention. Dieu ne veut pas que nous soyons remplis d'ordures spirituelles. Jean chapitre 5, verset 45. On va bientôt arrêter. Ne pensez pas que moi je vous accuse devant le Père, c'est l'attitude de Jésus, aux personnes de son peuple juif. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Donc la loi, la législation et le légalisme qui en est ressorti. 622 règles, en plus des 10 lois. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Et dans Deutéronome, chapitre 18, versets 18 à 20, Moïse a annoncé un plus grand prophète que lui. Donc Moïse savait que tout ce qu'il avait fait et dit avait une fin, avait été clôturé. Donc, chers amis, votre conscience ne doit pas être dirigée par du légalisme, par la loi, mais par l'Esprit Saint. Et vous pouvez trouver cela dans l'Épître à Timothée, au début. La loi est réservée pour les parricides, etc. Et il faut faire attention, du fond de mon cœur, je vous le dis. La vie chrétienne est une vie selon Jésus, pas selon la loi, selon l'Esprit Saint, dans une conscience renouvelée. Alors, dans Jean chapitre 8, rappelez-vous le récit de cette femme adultère qu'on voulait faire lapider par Jésus. Eh bien, Jésus a retourné la situation en disant « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Regardez bien ce que Jésus a fait. Il a retourné les gens qui adhéraient au légalisme et à la loi et qui manquaient totalement d'amour pour leur prochain, totalement de vérité, totalement de miséricorde. Il a retourné la situation par son avantage, à l'avantage de la gloire de Dieu. Il est mis clairement dans Exode, chapitre 33, que Dieu est lent à la colère, riche en miséricorde, et qu'il pardonne le péché. Il ne prend personne pour innocent, il pardonne les péchés jusqu'à 1000 générations. Chers amis, il pardonne les péchés à ceux qu'il aime. Et cette femme-là, qui est là, qui était prête à être massacrée, c'est pas marrant d'être lapidé, hein? Ça existe encore. Eh bien, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, quand ils entendirent cela accusé par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Cette expression est souvent liée à la tradition rabbinique, c'est-à-dire en présence de Dieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non. Seigneur, et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » C'est l'attitude même de Christ, d'être favorable à une conscience qui peut changer, à une conscience qui peut être sous la grâce, tôt ou tard. Et dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie dans votre âme, dans mon âme, est bien plus joyeuse et heureuse que les ténèbres. Aujourd'hui, aidez les autres à sortir des ténèbres, les amis. Parlez-leur de l'amour de Jésus pour eux. Depuis le confinement, beaucoup se sont mis à écouter les enseignements en semaine. Mais il y en a aussi d'autres qui ont de lourds fardeaux, très lourds. Et il m'arrive d'avoir plusieurs personnes comme ça qui ensuite, j'ai sur WhatsApp une demi-heure, en ayant prié bien sûr, parce que je ne suis pas un sorcier, et pour que Dieu m'éclaire sur leur conscience, on discute, je pose des questions, etc. Et ils progressent une demi-heure pour une personne. Est-ce que c'est si énorme que cela? Moi, j'en ai 3-4, plus les enseignements, etc. Mais pour chacun de nous chrétiens, consacrer une demi-heure, deux fois ou trois fois par semaine à une personne, à l'écouter, à prier pour elle et à lui proposer un texte de l'Évangile, c'est la parole de Dieu qui la guérira, parce que Jésus est la lumière du monde. Jésus est la grâce souveraine pour que la conscience passe des ténèbres à la lumière. Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Jésus.